Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Bonjour et bienvenue dans Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes des médias indépendants qui sont nos partenaires. Je m'appelle Jean-Berthelot de Lagleté et l'épisode du jour vous est présenté par Marion Ruau de l'équipe Podcasting.
Aujourd'hui, nous avons choisi un article du média partenaire Aki.fr. Alegria, le festival Arte Flamenco revient. C'est le titre de votre article. Bonjour Solène Méric.
Bonjour Marion.
Solène, vous êtes journaliste pour le site Aki.fr et aujourd'hui, avec vous, on va parler du festival Arte Flamenco. Très réputé, il a lieu chaque année à Mont-de-Marsan. La programmation de la 32e édition a été dévoilée le 29 avril dernier. Tout d'abord, Solène, est-ce que vous pouvez nous présenter Arte Flamenco ? Quelle est sa genèse ?
Arte Flamenco, c'est un festival d'art flamenco, comme son nom l'indique, qui a été créé en 1989. C'est un festival qui a été initié par le Conseil départemental des Landes et plus particulièrement par son président d'alors qui était Henri Emmanueli. Mais bon, en fait, dans les Landes et en tout cas à Mont-de-Marsan, c'est pas tellement un secret que l'idée de ce festival lui a été soufflée par son épouse qui s'appelle Antonia Emmanueli et dont la famille était d'origine espagnole, et elle, c'est une grande donc passionnée de l'Andalousie, du flamenco. Ça a été une belle idée, parce que depuis, donc là, ça va être la 32e édition, c'est toujours un succès, et c'est un temps fort de la vie montoise, mais au-delà, c'est un temps fort de la vie culturelle dans les Landes, en Aquitaine, et même au niveau national, voire international, parce que c'est un très grand festival avec de nombreux artistes qui sont invités chaque année.
Alors justement, pourquoi ce festival est-il si reconnu dans le milieu du flamenco et tant attendu ?
Il est reconnu parce que déjà de nombreux artistes sont invités. C'est un festival qui dure sur un petit peu moins d'une semaine. Et traditionnellement, il y a deux spectacles par soirée, excepté la soirée d'ouverture. Et il y a aussi beaucoup d'artistes qui viennent en parallèle du festival officiel, une sorte de festival off, si on peut dire, en complément. Mais pour ce qui est vraiment de la programmation officielle du festival, c'est des artistes, ce sont vraiment des stars, quoi. C'est des gens qui sont très très connus en Espagne, qui ont un grand talent, quelle que soit leur spécialité, si on peut dire, que ce soit chanteur, danseur, musicien. Et d'ailleurs, à tel point, tant en termes de qualité que de quantité, j'ai envie de dire, d'artistes présents, on dit souvent que Arte Flamenco, c'est le festival le plus important de flamenco hors Espagne. C'est un petit peu le top départ des animations de l'été, puisque le festival a lieu traditionnellement la première semaine de juillet.
Pour cette édition 2021, vous citez le co-directeur du festival qui parle de préparation complexe. Pourquoi ?
La préparation complexe, c'est évidemment la situation sanitaire de l'année 2020 qui déjà a fait que le festival n'a pas pu avoir lieu. Et pour cette année, sur l'année 2021, ça a aussi été très compliqué puisque on a des restrictions sanitaires qui ont évolué tout au long de l'année. Donc pour préparer le festival, il a fallu faire ça un peu à l'aveugle ou au jour le jour selon les évolutions. C'est-à-dire que on se pose la question de savoir est-ce que déjà ça va être possible ou pas de l'organiser, est-ce que ça va être possible ou pas de faire venir des artistes internationaux, dans quelles conditions est-ce qu'on peut faire les spectacles, est-ce qu'il faut que ce soit en plein air, est-ce que ça peut être dans des salles fermées, quelle jauge, quel public, assis, debout, est-ce qu'il y aura un couvre-feu, est-ce qu'il n'y en aura pas, et ça c'est des éléments qui ont un peu varié tout au long de l'année. Donc là, depuis fin avril, il y a un peu plus de perspectives ouvertes, on va dire, pour l'organisation. Mais il y a encore quelques incertitudes sur l'organisation quotidienne d'un festival comme ça. Il faut quand même savoir les choses un peu à l'avance. Il y a quelques adaptations, du coup, mais il aura lieu. Ça aura été difficile à mettre en place, mais il aura lieu. Et puis, d'ici à ce qu'il se tienne, il y aura peut-être encore de nouvelles annonces qui permettront de finaliser un petit peu la tenue du festival sur les aspects dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire les spectacles qui sont un peu en dehors du festival en lui-même.
Quelles sont les nouveautés par rapport aux éditions précédentes ?
Donc parmi ces nouveautés ou adaptations, la première c'est quand même le nombre de spectacles par soir. Habituellement, excepté pour la soirée d'ouverture, c'est 2 spectacles qui ont lieu chaque soir du festival. Or cette année, il n'y en aura qu'un. Et en plus, il démarra à 21h30, c'est-à-dire plus tard que d'habitude, parce que, et ça c'est la deuxième adaptation, il aura lieu en plein air. Et pour des questions de luminosité, ben, on peut pas organiser des spectacles fin juin, début juillet, à 20h, où il fait encore jour, quoi. On est obligé d'attendre un peu. Troisième nouveauté, ce plein air, il aura lieu aux arènes de Mont-de-Marsan, alors que d'habitude, les spectacles ont lieu dans le marché couvert de la ville, qui est modulable, en fait, et peut prendre des aires de salles de spectacle. Autre adaptation, ce sera la jauge. Donc là, il faut voir si il y a des évolutions ou pas encore à venir sur les restrictions sanitaires. Lors de la présentation du festival, il était annoncé que une place sur 3 serait occupée dans les arènes du Plumasson pour pouvoir assister au spectacle. Donc ça faisait une jauge d'environ 1000 personnes, si je me trompe pas.
Si quieres saber quién soy, de Santo Domingo vengo, ya Santo Domingo voy.
Alors la danseuse Rafaela Carrasco ouvrira le festival dans les arènes du Plumasson. Qui est-elle et comment la décririez-vous ?
Alors, Rafaela Carrasco, c'est une danseuse qui est l'ancienne directrice du ballet flamenco d'Andalousie. Donc déjà, ça place un peu le personnage, parce que le ballet flamenco, c'est vraiment la référence des ballets flamenco dans le monde, et donc surtout en Espagne. C'est une danseuse que Sandrine Rabassa, qui est la directrice artistique du festival, dit qu'elle a une grâce et une délicatesse infinie. C'est une danseuse qui allie effectivement délicatesse, mais qui a aussi une technicité parfaite, si on peut dire, et qui suit une école traditionnelle de l'art flamenco. Mais pour autant, tout en étant dans ce courant traditionnel du flamenco, elle a une belle capacité à personnaliser sa danse et à d'une certaine manière à conceptualiser son art à travers les chorégraphies et les spectacles qu'elle propose. C'est une grande danseuse, quoi.
Parlez-nous de son nouveau spectacle Ariadna à l'Hilo del Mito.
Alors, c'est difficile d'en parler parce que moi, je ne l'ai pas vu, évidemment. La représentation montoise, ce sera la première représentation de ce spectacle en dehors de l'Espagne. Toujours pour la directrice du festival qui, elle, l'a vu en Espagne. C'est une soirée qui promet une ouverture hors du commun et grandiose. Donc, on ne fait pas dans la demi-mesure. Pour ce qui est un peu du pitch, si on peut dire, du spectacle, c'est une chorégraphie où Rafaela Carrasco est seule danseuse sur scène, et seule femme, parce qu'en fait elle est entourée de 10 danseurs masculins. Elle vient se frotter au mythe d'Ariane, parce que ça veut dire le fil d'Ariane, hein, quand on traduit le titre de son spectacle. Donc c'est une soirée où il y aura donc à la fois flamenco et tragédie grecque, entre dramaturgie, poésie et énergie.
Alors le lendemain, le 30 juin, Pedro Ricardo Mino s'invite sur la scène montoise. Il la partagera avec 2 autres artistes. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, Solène ?
Pedro Ricardo Mino, c'est un pianiste. Donc c'est déjà en soi un peu une originalité, parce que quand on pense au flamenco, on pense danseuse, on pense guitare, on pense caronne, c'est l'instrument qui permet de donner le rythme. Le piano, c'est pas forcément la première image qu'on a du flamenco. Or, il y a quelques pianistes flamenco en Espagne. Et donc Pedro Ricardo Mino, il était déjà d'ailleurs venu sur le festival quand il était un peu plus jeune. Et là, en fait, il revient, mais vraiment en tant qu'artiste confirmé. confirmé. Et à ses côtés, il y aura effectivement deux autres artistes. Côté chant, ça va être Annabelle Valencia, qui, elle, est en pleine ascension dans sa carrière artistique. Côté danse, il y aura le danseur qui s'appelle El Choro. C'est un danseur très énergique et donc apparemment totalement en lien avec le spectacle qui va être proposé, que Sandrine Rabassa promet être une soirée, je cite, « percutante et rythmée ».
Y el sueño va sobre el tiempo, hundido ya hasta los cabellos, ayer y mañana come, yo curo flores de duelo sobre la misma columna, allí abraza.
La soirée du 1er juillet, elle, sera portée par un casting 100% féminin. Manuela Carrasco et Esperanza Fernandez sont à l'honneur. Un mot sur ces deux artistes puissantes.
Oui, en effet, cette soirée, ça sera 100% féminin et 100% artistes de grand talent. Le terme que vous avez employé de femme puissante est vraiment le mot qui convient à ces deux femmes. Il y en a une, Manuela Carrasco, c'est carrément, on peut dire, un mythe de la danse flamenco. La directrice artistique du festival, lors de la présentation, a fait savoir que c'était un petit peu l'occasion ou jamais de venir la voir ou la revoir. Parce qu'effectivement, elle va bientôt mettre un terme à sa carrière. À côté d'elle, une autre artiste puissante, elle est chanteuse, c'est Esperanza Fernandez, qui est une incontournable en fait, hein, du chant flamenco. Ce qui la caractérise, c'est donc à la fois sa puissance, mais aussi sa capacité à ne pas être que dans la puissance. C'est-à-dire qu'elle peut être à la fois très subtile et douce dans son chant. Voilà, c'est effectivement une soirée avec de belles femmes fières et puissantes.
Solène, est-ce qu'on attend sur scène uniquement des artistes matures et confirmés, ou est-ce qu'on verra aussi des plus jeunes?
Il y a effectivement beaucoup d'artistes confirmés. La tradition d'Arte Flamenco, c'est d'inviter des artistes un peu plus jeunes ou dans le sens un peu moins connus. Là, cette année, Covid oblige, il y a un petit peu moins de jeunes talents comme ça qu'on va découvrir. Mais il y a quand même des jeunes artistes en termes d'âge. Donc là, on peut citer Rocío Molina qui est jeune par l'âge, mais qui est déjà très, très, très reconnue dans la danse flamenca en Espagne. Elle a une vision un peu plus contemporaine, une danse un peu plus contemporaine du flamenco. Ça va être un grand moment aussi ce 3 juillet entre la jeunesse de Rocío Molina, pardon, et puis l'expérience, on va dire, de Raphaël Riqueni à la guitare.
Que devient cette année la scène de la Bodega, qui accueille d'habitude des représentations gratuites d'artistes amateurs?
Cette scène Bodega, elle reçoit en effet des compagnies amateurs, mais pas seulement en fait. Habituellement, elle reçoit aussi des artistes flamenco français, donc qui font des spectacles en soirée, en plein air. Donc cette scène, elle est aussi au cœur de la ville habituellement, et donc en journée, c'est plutôt des compagnies amateurs. Il y a aussi des petits cours de flamenco pour les enfants qui sont donnés, et en soirée, c'est des vrais spectacles de flamenco, mais par des artistes français. Donc ça permet aussi de leur donner une visibilité sur le festival Montois. Alors cette année, il semble qu'elle va toujours exister, mais elle va être déplacée. Habituellement, elle est sur la place de la mairie à Mont-de-Marsan. Là, elle va être à la place Saint-Roch. Elle va être entourée de nombreux bars et restaurants. Je pense que dans l'idée des organisateurs, ça permet d'avoir des spectacles en plein air qui pourront être vus depuis les bars et restaurants. Si jamais l'option qui est habituellement mise en œuvre d'avoir des artistes directement dans les bars et restaurants ne pouvait pas être possible à cause du Covid.
Solène, selon vous, est-ce que le festival Montois Arte Flamenco s'adresse seulement à des connaisseurs et des passionnés ou est-il accessible à toutes et tous ?
Je crois que la volonté des organisateurs, c'est que ce festival s'adresse à tous et toutes en créant des spectacles dans la ville, comme je l'expliquais tout à l'heure. C'est vraiment une volonté d'ouvrir le flamenco à tous. On peut voir un premier spectacle de flamenco et pas aimer, mais pour autant, il faut donner une deuxième chance en fait à cet art, parce que comme je le disais tout à l'heure, il y a vraiment du flamenco très pur et très traditionnel que voilà, qui peut ne pas plaire, et puis il y a des formes un peu plus contemporaines, un peu plus ouvertes qui attisent peut-être la curiosité de personnes qui a priori se diraient oui ben moi les robes à pois et les castagnettes c'est pas trop mon truc quoi. Il y a un éventail qui est proposé sur le festival Arte Flamenco qui permet d'avoir des spectateurs et un public ouvert et large. L'objectif c'est que le flamenco soit connu et reconnu dans le monde et en France et que tout le monde soit curieux et puisse aller voir du flamenco.
Quelle place tient un festival comme Arte Flamenco dans la période que l'on connaît ? Est-ce que le grand retour du festival fait figure d'espoir selon vous ?
Le retour du festival Arte Flamenco, c'est le retour de la scène et de la culture à Mont-de-Marsan. Donc c'est quelque part un grand ouf de soulagement, quoi. C'est de se dire, enfin on va pouvoir retourner au spectacle. Il y a même une certaine impatience qui flotte dans l'air. Enfin, c'était très perceptible lors de la présentation du festival fin avril. Donc oui, c'est porteur d'espoir de pouvoir renouer avec ce rendez-vous. Il n'y a pas de doute. On a tellement vécu depuis plus d'un an au rythme des restrictions sanitaires saccadées. Un jour, on est un peu plus libre, un autre, on est un peu moins. Donc, on peut peut-être rester un peu prudent sur le côté espoir, parce que le festival ne sera pas totalement ce qu'il est habituellement. Mais finalement, on nous a tellement présenté les restaurants et les lieux de culture comme les derniers remparts d'une liberté retrouvée que, oui, l'annonce d'un festival tel qu'Arte Flamenco, avec l'importance qu'il a, et oui, c'est une belle occasion de se dire qu'on peut y croire encore et qu'un jour, on reviendra à un monde un peu plus qu'on connaissait avant, en tout cas sur l'aspect culture, et ça c'est un signe d'espoir.
Merci beaucoup Solène Méric d'avoir été avec nous.
Merci.
Je recommande vivement la lecture de votre article, il s'appelle Alegria, le festival Arte Flamenco revient, et il est à retrouver sur le site d'Aki.fr.
Merci Marion Ruault, c'est la fin de cet épisode de Podcasting, production Anne-Charlotte Delange, Juliette Chénion, Lisa Feignet et Mathilde L'Oeil, iconographie Magali Maricot, programmation musicale Gabriel Taïeb, réalisation Olivier Duval. Si vous aimez Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, dont Spotify, Apple Podcasts ou Google Podcasts. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.